Merci François, bonne journée.
François Geffrier sur Radio Classique.
Tous les jours sur Radio Classique, vous avez rendez-vous à 6h20 avec Natacha Valla. Bonjour Natacha.
Bonjour François.
Ça s'appelle les classiques de l'économie et vous êtes doyenne de l'école de management de Sciences Po. On va parler de quelque chose qui est traumatisant encore aujourd'hui chez les Allemands, c'est l'hyperinflation des années 1920. Et vous-même, dans votre expérience professionnelle, Natacha, vous avez rencontré, j'allais dire, ce traumatisme.
Ah ben c'est certain. En réalité, quand on a construit l'euro, quand l'euro est apparu dans les années 2000 et qu'on l'a construit dans la décennie précédente, les Allemands qui étaient impliqués dans la construction de cet euro-là, c'était les enfants de ceux qui ont vécu l'hyperinflation. Donc dans l'imaginaire collectif, il était absolument essentiel pour les Allemands qui étaient là pour coécrire le traité qui est devenu le traité de Maastricht, pour mettre en place cette stabilité financière, cette stabilité monétaire, et le fait qu'on mette tous les œufs tous les arguments de notre côté pour éviter d'avoir à revivre cette hyperinflation qui met en cause la confiance dans la monnaie.
Oui, parce qu'on parle aujourd'hui, nous, notre inflation récemment, ça a été jusqu'à à peu près 6% en France. Là, à l'époque, on parlait en centaines de pourcents.
On s'est beaucoup ému ces dernières années, des 6%, les 10% dans certains pays du nord de l'Europe. En Allemagne, en 1922, l'inflation, c'était 700%. En 23, c'était encore plus. Le prix du pain se mesurait en milliards de marques. Donc, ce sont des choses qu'on entend aujourd'hui et qui adviennent dans certains pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, où la maîtrise monétaire n'est pas suffisante. Mais ça a été le quotidien pour l'Allemagne à cette époque-là. Alors, c'est un contexte historique particulier, il faut s'en souvenir, c'était l'après-guerre. Les dépenses de la guerre avaient été financées en Allemagne, figurez-vous, par le financement monétaire. Donc on avait demandé à la Banque centrale d'imprimer des billets pour financer ça, par la dette publique. Tout ce qui aujourd'hui est abhorré par les Allemands, et on voit du coup d'où ça vient. Ces erreurs-là, elles ont donné lieu à cette inflation. Et cette inflation, finalement, elle s'est renforcée par l'attitude qu'on a eue collectivement avec les réparations. Je ne vais pas rentrer dans les détails historiques, mais on a demandé avec le traité de Versailles et sa mise en œuvre par la suite, de rembourser des sommes absolument colossales en termes de, par rapport aux richesses que le pays était capable de produire et par rapport aux réserves d'or que le pays était capable de mobiliser pour ces remboursements. Donc, problématique aussi par rapport à la valeur du marque en tant que monnaie. Et finalement, on a dû trouver une solution. Et c'est de là qu'est venu un peu ce sentiment allemand qui prévaut encore aujourd'hui. On a mis en place plusieurs choses. Première chose, une institution sacro-sainte, la Banque centrale, qui est la Bundesbank encore aujourd'hui, et dont le mandat à l'époque a été exclusivement centré sur la stabilité des prix. Vous savez que le débat, et ça a été rappelé par le président de la République très, très récemment, le débat sur les banques centrales, c'est leur mandat. Quel est leur
responsabilité ? Est-ce que c'est l'inflation ? Est-ce que c'est aussi le chômage ?
Voilà, est-ce qu'on rajoute autre chose ? Pour les Allemands, c'était l'inflation.
Le côté écologique.
Exactement. Ça fait partie des choses qui sont sur le métier aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la Bundesbank aujourd'hui fait partie de l'eurosystème, mais c'est une banque centrale qui a pour mandat la stabilité des prix. On a dû mettre en place des nouvelles monnaies, donc on a divisé la valeur faciale des monnaies, et ces nouvelles monnaies ont été... Alors, il y a eu une circulation des monnaies un peu parallèle. On a eu d'abord le Rentenmark en 1923, et ensuite le Reichsmark en 1924, qui a complété le Rentenmark, une double circulation pendant un temps, et ensuite on a remplacé par cette nouvelle monnaie, qui était elle-même, et c'est très intéressant, indexé sur les richesses nationales ou les ressources ou le potentiel de production, le charbon, le fer, l'or. Donc quand on parle d'indexation, quand on parle de tout ce qui a été développé après, les talons or, etc., en fait, toute cette réflexion, elle était déjà là, elle avait été mise en œuvre dans le traitement d'une problématique majeure d'un point de vue socio-économique. Et finalement, tous ces arguments-là reviennent de temps à autre sur le devant de la scène pour protéger la stabilité d'une monnaie et surtout la crédibilité en une monnaie. Alors, on a vu aussi récemment, en analysant cette époque-là, que finalement, c'est un économiste qui s'appelle Brunner Meyer qui a regardé ça de près, et il a constaté quelque chose qui peut sembler assez intuitif. que le passif des entreprises avait été beaucoup aidé, en fait. Vous savez, quand il y a beaucoup d'inflation, vos dettes, la valeur de vos dettes s'érode. Donc ça a finalement, d'une certaine manière aussi quand même, aidé certaines entreprises
à
ne pas faire faillite. Voilà, c'était un peu extrême et c'était sans doute un peu trop. Mais les vertus, une des vertus de l'inflation, c'est quand même de stabiliser les stocks de dettes. À une époque où on a quand même beaucoup de dettes publiques et privées dans nos économies aujourd'hui, à méditer.
Voilà, retour sur l'hyperinflation allemande des années 1920, un siècle plus tard, grâce à vous, Natacha Valla. Merci.